du monde. Ne nous fais pas prendre le néant pour l'existence dont il masque la beauté. Fais de ce monde apparent le miroir du reflet de ta beauté et pas un mur qui nous sépare et détourne de toi. Change pour nous l'irréalité des phénomènes en source de science et d'intuition, et non pas d'ignorance et d'aveuglement. Notre dépossession, notre exil loin de ta beauté, tout vient de nous. Délivre-nous de nous-mêmes et fais-nous la grâce de ton intimité.
A fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Je fumais la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village? Je fumais la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison? Qui m'est une province et beaucoup d'avantages, plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains, le front tout d'acier, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin, et plus que l'air marin, la douce angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village?
Vous êtes sur France Culture dans les Racines du Ciel, toujours en compagnie de Faouzi Skali pour parler du soufisme. Donc on a compris que le soufisme était une voie d'intériorité, qui, une voie mystique, une voie spirituelle, comme il en existe dans toutes les traditions. Et en deux mots, on pourrait dire quel est finalement le cœur de la pratique du soufi, celui qui suit cette voie, et pour arriver à quoi?
C'est un processus de transformation de soi. Si vous voulez, on peut l'exprimer de plusieurs façons, mais on peut prendre cette transformation qui indique qu'il y a, si vous voulez, au départ, cette matière brute, faite de pulsions, faite d'agitation, faite de désirs, de domination, qu'on appelle l'ego, n'est-ce pas, et que les soufis appellent l'ego ou l'âme despotique. N'est-ce pas? Et ça, c'est un petit peu ce que nous avons à travailler à la base. Ensuite, il y a un deuxième état qui est celui de ce qu'on pourrait appeler l'ego qui se blâme. C'est un peu la naissance de la conscience morale, d'une certaine façon. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on est capable de se distancier par rapport à ce despotisme psychologique brut et de pouvoir se dire, ben ça, je ne le fais pas parce que ça porte préjudice à autrui, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la dualité morale, si je puis dire, du bien et du mal. Ensuite, il y a un troisième degré qui est l'âme inspirée. C'est-à-dire que là, on souffre sur quelque chose qui est au-delà de la dualité, et qui est la sensation d'être dans le rapport juste aux choses, de sentir les choses intérieurement, de savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, bien plus subtilement que ce qui peut être défini d'une façon conventionnelle, si je peux dire, par des termes extérieurs. Et puis alors, parce qu'on prend ce chemin du cœur, on a cette capacité de sentir le chemin et ce qui est juste dans la façon dont on vit les choses ou dont on fait les choses, eh bien, on se rapproche de plus en plus de ce qu'on appelle l'âme pacifiée, c'est-à-dire la paix. N'est-ce pas? L'âme qui rentre dans une réconciliation réelle avec elle-même. Et ensuite, il y a d'autres degrés, si vous voulez, qui amènent jusqu'à ce septième degré, qui est l'accomplissement de l'âme humaine. C'est-à-dire qu'il y a une potentialité qui est en nous et qui consiste à véritablement évoluer, cheminer spirituellement jusqu'à accomplir totalement ce que tout à l'heure on appelait l'homme parfait. Il faudrait peut-être dire l'homme accompli, hein, parce que la perfection ne nous appartient pas. Il n'y a pas de limite à l'accomplissement lui-même. Et donc, il y a cette espèce de réalisation spirituelle et c'est cela le but ultime dans tout cheminement.
Alors, est-ce que cette réalisation spirituelle, elle peut être considérée comme simplement une réalisation totalement intérieure qui s'arrête là, ou est-ce qu'elle doit déboucher sur une action dans le monde ? Autrement dit, est-ce qu'au terme ou dans le chemin spirituel soufi, il y a l'idée de transformer le monde, de participer à la vie sociale ou pas ?
Il y a cette idée qu'on ne peut transformer le monde si on ne commence pas par se transformer soi-même. Et d'ailleurs, c'est la condition pour transformer le monde utilement, parce qu'autrement, on va le transformer inutilement. Parce que si le monde, à la fin, il est entre les mains de dames despotiques, eh bien, même si on le transforme, on risque d'en faire quelque chose d'encore plus problématique qu'au départ. Et donc, cette transformation intérieure et la transformation extérieure vont de pair. D'une certaine façon, ce qui est très intéressant à noter, d'ailleurs, d'une façon générale, il me semble que ça dépend aussi des époques, mais il me semble qu'il y a des époques où peut-être le choix personnel devient prédominant, mais il y a aussi des époques où il semble que cette transformation intérieure doive en même temps susciter quelque chose qui est une sorte de spiritualité collective. C'est-à-dire que dont nous avons parlé, par exemple, à l'instant, sur l'âme despotique, l'âme morale, si je peux dire, l'âme inspirée, ainsi de suite, c'est quelque chose qui peut aussi se lire sur le plan d'une transformation sociale. C'est-à-dire qu'une société peut se spiritualiser, une société peut être productrice de valeurs qui sont des valeurs, si je peux dire, qui sont l'expression d'un certain dépassement de l'ego. Par exemple, lorsqu'on parle de générosité, que cette valeur devient importante, lorsqu'on parle d'humilité, lorsqu'on parle de sincérité, lorsqu'on parle de compassion, lorsqu'on parle de l'amour spirituel, qui est une sorte de transcendance totale de l'ego lui-même. Je crois que c'est très intéressant parce que comment et de quelle façon une société peut, par sa transformation spirituelle, mettre ses valeurs au cœur de ce qu'elle elle développe. Et je crois que, vous savez, aujourd'hui, quelqu'un, un philosophe, a parlé un petit peu sur le fait que la société est basée principalement sur le principe de l'ego, c'est-à-dire que chacun pour soi, et puis finalement les choses vont s'arranger, vont s'équilibrer en quelque sorte, un petit peu, c'est une sorte de tout à l'ego, quoi, comme ça a été dit. Et donc, cette espèce d'intérêt, de recherche d'intérêt personnel et qui va aboutir à une espèce de vertu publique, eh bien, c'est un modèle, si je puis dire. Mais c'est un modèle dans lequel certaines valeurs, qui sont des valeurs d'héroïsme spirituel, n'ont absolument aucune place. Et donc, il est même nécessaire qu'il n'ait aucune place dans cette perception. Mais on aboutit aussi à ce que l'on connaît aujourd'hui, dans le développement du paradigme actuel, n'est-ce pas, qui devient une sorte d'impasse totale. Et je crois que par cette autre approche qui est collective, où l'on développe un autre type de valeur, je crois qu'on serait beaucoup plus à même d'être plus respectueux de notre environnement, d'être plus respectueux d'autrui, d'une solidarité, d'une équité, d'être dans un meilleur rapport, peut-être avec même une certaine qualité de vie, un certain art de vivre. Et je pense en ce sens-là que la matrice, si je peux dire, culturelle et spirituelle du soufisme peut jouer un rôle majeur dans le développement des sociétés musulmanes à venir.
Et justement, alors est-ce qu'on va dire ajouter une valeur qui, à mon sens, est essentielle, c'est la valeur de la liberté. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'islam vraiment radical est anti-soufi, de même que le wahhabisme, etc. Ils sont anti-soufi, à mon sens, parce que le soufisme est vraiment peut-être un des seuls espaces de liberté radicale dans l'espace islamique.
L'espace de liberté de l'individu.
De l'individu, bien sûr.
Oui, c'est un espace de liberté de l'individu parce que c'est d'abord et avant tout une expérience profondément singulière et personnelle. Donc personne ne peut préjuger de la réalité de ce que vit une autre personne, qui est une espèce d'acceptation de la différence, de la diversité des expériences. C'est un adage soufi dit « il y a tant de voix qu'il y a d'enfants d'Adam ». N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il y a, dès le départ, cette considération